Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Bonne année à tous au nom de toute l'équipe. Dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, le premier de l'année 2020. Et puis, le débat d'actualité ce samedi. Faut-il se ressembler pour s'assembler? C'est la question que pose l'anthropologue et sociologue Nicole Lapierre dans un essai qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Livre passionnant qui interroge notre époque et qui propose un manuel de résistance aux discours conservateurs et réactionnaires. Minorité, assimilation, famille nationale, tous ces sujets sont débattus dans le livre et on en parlera avec donc Nicole Lapierre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et le premier duel de 2020 avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et au sommaire des élections qui se profilent dans les mois qui viennent. Et puis vous avez chacun choisi un événement, un phénomène important de 2019 dont il faudra suivre les répliques ou les développements au cours de l'année 2020. Et pour commencer, Gilles, pour vous, il faudra être vigilant à ça.
Si on continue, nous les citoyens, à avoir une défiance dangereuse vis-à-vis des politiques. Et si les politiques, dans le même temps, ne s'inspirent pas de la créativité, de l'inventivité, de l'intelligence des citoyens, on n'y arrivera pas. Chacun doit jouer son rôle. C'est bien de notre survie dont il est question.
Cette parole grave, c'est évidemment Nicolas Hulot qui l'a prononcée, auditionnée vendredi 15 novembre 2019 par la Convention citoyenne pour le climat. Et pour vous, Gilles, cette Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens tirés au sort, c'est quelque chose d'important, mis en place il y a donc quelques mois, mais qui devrait donc aboutir à des résultats ou qui devrait aboutir à quelque chose d'important dans les mois qui viennent?
Ah, il faut l'espérer. Réfléchissons à ce qu'ont été les événements marquants de l'année 2019. On peut évidemment hésiter parce qu'il y en a eu beaucoup. Je pensais au suicide de cette directrice d'école qui m'avait beaucoup marqué, à des événements historiques comme le Brexit, à un certain nombre de protestations sociales et politiques dans le monde. Mais si j'ai choisi la Convention citoyenne pour le climat, c'est en raison à la fois de l'enjeu lui-même, de l'enjeu climatique, après une année 2019 qui a été une année terrible, qui a été une année qui a été marquée à la fois par des feux d'une ampleur qu'on n'avait pas connue, par des températures d'une ampleur que nous n'avions pas connu, par une mobilisation citoyenne sans doute nouvelle et par une inaction politique plus importante avec notamment à la fin de l'année dernière l'échec de la COP25. Donc il y a cet enjeu climatique, mais il y a, et c'est pour ça que je l'ai retenu, l'innovation démocratique. Ça fait des années qu'on s'interroge sur la manière d'articuler les citoyens à la démocratie représentative et là il y a une tentative pour faire quelque chose. Avec cette composition, vous l'avez évoqué, c'est 150 citoyens tirés au sort, mais c'est 150 citoyens formant un échantillon représentatif de la population française. Donc, très différent de ce que l'on avait vu pendant le grand débat dans lequel il y avait une déformation par rapport à ce qu'était la réalité de la société française. Intéressant par sa méthode, ils prennent le temps, ils recourent à des experts qui sont là presque comme des conseillers du prince que sont les citoyens, et surtout, et c'est ça peut-être le plus important, par l'ambition qui est faire des propositions pour que la France respecte ses engagements de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030, donc une ambition très importante avec un engagement du gouvernement qui est ce qui sortira de cette convention sera appliqué.
Mais pourquoi est-ce qu'il en serait différemment avec ce qui avait été promis à Nicolas Hulot lorsqu'il était pour le coup dans le gouvernement et qu'il n'avait pas donc seulement à prendre la parole devant ses 150 citoyens?
Écoutez, on va le voir, c'est l'engagement qui a été pris par le président de la République et par le Premier ministre. D'ailleurs, à l'issue du grand débat et du mouvement des Gilets jaunes, donc on va le voir, c'est peut-être plus difficile de ne pas tenir compte s'ils arrivent à trouver un consensus et à former des propositions. C'est sans doute plus difficile de ne pas tenir compte de ce que veulent les citoyens que ce que veut Nicolas Hulot, aussi populaire soit-il.
Natacha Polony.
Exactement. Il y a là, en effet, une certaine façon, il y en aurait d'autres, de répondre à la crise de la démocratie représentative dont on peut considérer qu'elle est un des éléments marquants de 2019. Et je rejoins Gilles sur un point, ce qui va en sortir va être très intéressant à la fois du point de vue environnemental et du point de vue politique, la question de savoir si le politique va accepter ce mode de délibération et la façon dont ce mode de délibération peut aboutir à des propositions. Ça va être très intéressant de savoir si ces propositions sont réellement innovantes, créatives.
Est-ce qu'elles peuvent
je n'en sais rigoureusement rien, si elles peuvent l'être. Le problème, c'est à la fois la façon dont se forge une opinion. Et il est très intéressant de voir en effet comment fonctionne cette convention. C'est l'évolution de cette délibération. Mais in fine, j'ai une réticence. C'est que je ne pense pas qu'on puisse réfléchir à la question environnementale en dehors de l'ensemble des autres questions, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que Nicolas Hulot s'était lui aussi heurté à un mur, c'est que la question environnementale est intimement liée à la question de l'organisation de notre système économique. Donc cette convention est innovante, elle est intéressante. Pour autant, les propositions qu'elle fera ne peuvent être que limitées parce qu'il faudrait pouvoir mettre en place un système radicalement différent pour qu'il y ait un véritable impact.
Gilles ?
Alors, elles vont être à la fois limitées parce qu'effectivement, il y a des sujets qu'elles ne vont pas aborder et en même temps considérables parce que si on veut réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc dans un horizon qui est un horizon court, ça veut dire qu'on touche à l'ensemble de nos modes de consommation et de nos modes de production. Donc, c'est à la fois limité, disons que ça ne remet pas en cause l'ensemble du système, mais ça va affecter à peu près la totalité du système quand même.
Ben justement, c'est toute la question que je me pose. C'est-à-dire que, en effet, ça nécessite de remettre en cause notre système de production et de consommation. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller jusque-là dans leurs propositions? C'est-à-dire réellement de mettre en cause l'ensemble du système du libre-échange, de la division mondiale du travail, parce que c'est ça qui est en jeu. Sinon, il n'y aura aucun changement. Donc, vont-ils le faire et est-ce que cela peut être accepté? C'est pour ça que je regarde avec intérêt.
Gilles, d'un mot, est-ce que vous pensez que des citoyens réunis, 150 citoyens tirés au sort, vous dites qu'ils seraient représentatifs de la population française, peuvent-ils faire preuve de plus d'imagination, avoir des idées plus novatrices que les ONG par exemple, ou les experts du climat, de la question écologique qui travaillent depuis des années?
Écoutez, je n'en sais rien.
C'est une vieille question démocratique, mais...
C'est une vieille question démocratique. Il y a cette question démocratique et il y a une autre question démocratique, c'est dans quelle mesure sont-ils plus légitimes, parce que malgré tout, ils n'ont pas été élus, sont-ils plus légitimes que ceux qui ont été élus à cette fin? Parce que c'est une autre question, une autre interrogation très profonde, au-delà de leur capacité à faire des propositions innovantes. C'est qu'on n'est pas dans la démocratie directe, au sens propre du référendum, comme on l'a quelquefois. On n'est pas dans la démocratie représentative telle que nos démocraties les connaissent depuis des siècles. On est dans quelque chose d'intermédiaire qui essaye de s'inventer, qui ne peut être utilisé que de manière exceptionnelle. On ne va pas gouverner un pays à coup de conventions citoyennes, mais on va voir si sur un sujet déterminant, à un moment, ça permet de débloquer la situation.
Un mot, Natacha ?
Cette question de la légitimité est majeure, dans la mesure où, quand vous dites, est-ce qu'ils seront plus créatifs que des ONG ? La question n'est pas qu'ils soient plus créatifs. La question est la reprise en main par les citoyens de leur capacité de décision, de leur destin. Les ONG font partie des experts qui doivent éclairer le citoyen sur ses choix. Mais in fine, nous sommes en démocratie, c'est le citoyen qui décide. Alors tout le problème, en effet, c'est que là, ce sont des citoyens qui ne sont pas élus et qui ne représentent pas, qui ne sont pas l'ensemble des citoyens. On n'est ni dans la démocratie directe absolue, ni dans la démocratie représentative. En revanche, ce que nous pouvons constater, c'est que cette forme-là est la réponse à un blocage absolument total de la démocratie représentative, parce que dans la démocratie représentative, actuellement, on voit une confiscation de cette légitimité par des intérêts qui se deviennent des intérêts de classe et une rupture entre les représentants et les représentés. La forme qui est mise en place là n'est pas forcément parfaite et ce n'est pas forcément la meilleure. C'est une des façons de traiter ce problème, mais je pense qu'il en faudra beaucoup d'autres.
La suite du duel est pour vous, Natacha, en 2020. Que deviendra ce slogan « Manif partout, justice nulle part » ?
Pendant que Xi Jinping montre son pouvoir militaire en Chine, à Hong Kong, on est capable de défier le Parti communiste. Aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait été totalement interdit de manifester, les gens sont quand même sortis dans la rue pour montrer leur détermination dans leur lutte pour la démocratie.
Ce qui se passe au Chili maintenant, c'est vraiment grave.
Non, ça peut essayer ainsi.
Nous ne pouvons pas continuer ainsi à nous endetter pour acheter à manger, pour nous soigner, pour payer nos études. Les gens en ont marre.
Nous avons des prix vraiment élevés et des salaires vraiment bas. Alors nous ne pouvons pas vivre au Liban. Ils s'en foutent, ils veulent tout pour eux. Ils ne pensent pas au peuple.
C'était en 2019 et on se souvient tous de ces révoltes qui ont éclaté à Hong Kong, au Chili, au Liban. On pourrait continuer la liste. Je ne sais pas s'il faudrait y rajouter la France également, Natacha, mais vous vouliez revenir sur cette vague ou ces vagues de révoltes et la mondialisation d'un mouvement de protestation des peuples qu'il faudra surveiller au cours de cette année 2020.
Oui, bien sûr, et je pense que la France, bien sûr, doit être incluse, l'Algérie aussi, et ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'il y a d'abord une diversité, évidemment, entre ces différents pays et ce qui s'y est passé. On ne va pas mettre Hong Kong sur le même plan que ce qui s'est passé en France, ça n'a rien à voir. L'Algérie a un problème spécifique. En revanche, dans plusieurs de ces pays, on retrouve un élément extrêmement frappant. Parce que tout le lien, c'est l'usage des réseaux sociaux, une jeunesse qui communique et qui aspire donc à une forme de liberté. Là-dessus, on le retrouve absolument partout. En revanche, on retrouve au Chili, au Liban, en France, dans une bonne partie des pays développés, quelque chose, une autre forme de spécificité qui est la révolte des classes moyennes. Ces classes moyennes sont celles qui avaient émergé au cours du XXe siècle, sur lesquelles s'appuie en fait le pacte démocratique, et qui sont fragilisées par le système économique mis en place depuis 40 ans, qui est celui du libre-échange, celui de la dérégulation financière, la financiarisation du capitalisme, et tout cela se fait au détriment des classes moyennes. Il y a des très pauvres qui sont sortis de la pauvreté grâce à cette mondialisation. Les très riches sont les grands bénéficiaires, et entre les deux, tout à coup, c'est en train de craquer. Et je pense que 2019 a été l'année où apparaissaient de façon évidente les limites de ce cycle néolibéral et la façon dont des peuples, au sens large, veulent reprendre en main leur destin, veulent se saisir de leur capacité à se faire entendre, quitte à le faire dans la rue, pour essayer de remettre en cause ce système, ce qui, évidemment, provoque des révoltes extrêmement profondes qui ressurgiront. Pourquoi ? Parce que le système se défend.
Gilles ?
Oui, il y a une, Natacha Polony a raison de le dire, je crois, une grande diversité dans toutes ces situations. Il y a quelques autres pays que l'on aurait pu ajouter à la liste. Révolte des classes moyennes, je voudrais revenir. Révolte sans doute des classes moyennes, ça mérite quand même d'être discuté. Des classes moyennes des pays européens, sans doute parce que, pour le coup, ce sont sans doute elles qui sont le plus victimes des révolutions à la fois numériques et de la mondialisation. Dans les pays émergents, c'est peut-être moins vrai parce que ce sont dans ces pays-là qu'il y a eu l'émergence d'une immense classe moyenne de plusieurs centaines de millions d'hommes et de femmes sortis de la pauvreté, et ce sont donc pas à proprement parler une révolte des classes moyennes. Révolte, en revanche, et c'est ça qui est peut-être qui fait le lien entre ces situations très diverses. Je ne sais pas si on est dans une situation pré-insurrectionnelle, mais il y a quelque chose qui boue dans le monde entier et qu'il y a malgré tout, au-delà de la diversité, un certain nombre de points communs à ces différents mouvements, à la fois dans leur organisation, dans la manière dont ils organisent ces mouvements ou dont ils ne les organisent pas, pas de leader, beaucoup d'organisations via les réseaux sociaux, un appel souvent à la désobéissance civile, et surtout, sur le fond, le point commun, je crois, c'est souvent ces mouvements sont déclenchés, non pas pour des raisons, au départ en tout cas, qui sont des raisons politiques, mais pour des raisons sociales, et qui souvent paraissent être, je ne dirais pas des détails, mais des petites choses. Une
petite organisation, une petite augmentation du prix de l'essence ici. Une petite augmentation du prix du ticket de métro ailleurs. Une taxe sur WhatsApp, les communications WhatsApp dans un troisième pays. Et derrière ça, en fait, ces événements-là sont des événements significatifs, symboliques. Derrière, il y a une revendication sociale, mais aussi politique.
Oui, mais vous voyez, cher Gilles, les trois que vous avez cités, augmentation de l'essence, c'est la France. Augmentation du ticket de métro, c'est le Chili. Augmentation de, enfin, taxe sur WhatsApp, c'est le Liban. Et justement, dans ces trois pays, il y a là un enjeu qui est celui, on va dire, des classes moyennes, même si ce terme, je suis d'accord, prête à confusion, etc. Mais le Chili, par exemple, est un pays où justement cette classe moyenne avait réussi à émerger, où quelque chose, c'était, il y avait une stabilité qui était en train de se mettre en place et qui est abîmée aujourd'hui. Et en fait, à travers ces petits détails qui déclenchent la colère, il y a derrière tout cela l'idée que ces populations-là veulent continuer veulent perpétuer le pacte social qui était mis en place et en gros dont on peut dire qu'il s'est mis en place dans de très nombreux pays. Alors en Europe, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce pacte politique et social justement qui appuie la démocratie sur la justice sociale, sur une forme de redistribution, et c'est tout cela qui est fragilisé aujourd'hui. Or, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a là très évidemment la fin d'un cycle, dans le sens où il apparaît évident, même pour les soutiens de cette dérégulation, qu'on ne va pas pouvoir continuer indéfiniment et qu'il va falloir réformer ce système. La question est de savoir comment et s'il faut seulement réformer ce système ou le changer radicalement.
Et puis avant de passer au débat, en 2020 aussi, des élections.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Je n'ai jamais vu le Parti républicain aussi uni. J'ai accompli un boulot formidable. Personne n'avait fait ça dans ces trois premières années.
Évidemment, Donald Trump, confiant en sa réélection, c'était le 18 décembre dernier. Ses sympathisants et ses soutiens hurlent for more years, 4 ans de plus en bon français. Et les élections américaines, c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Elles auront lieu le 3 novembre prochain. Pourquoi faut-il être vigilant à ce qui va se passer aux États-Unis, Gilles, considérant que les États-Unis s'impliquent de moins en moins sur la scène internationale et que tous, autant que nous sommes, nous n'aurons pas à voter ni pour Donald Trump, ni pour son opposant?
Oui, on pourrait le regretter d'une certaine manière compte tenu de l'importance des États-Unis, on peut se dire que il serait légitime que l'ensemble de la planète vote pour élire le président des États-Unis et que les résultats seraient peut-être différents. Non, ces élections sont déterminantes, elles sont déterminantes pour les États-Unis, mais elles sont déterminantes au-delà pour le reste du monde compte tenu du poids des États-Unis. Et compte tenu de la personnalité de Donald Trump, 4 années de plus contribueraient davantage encore à fracturer à la fois les États-Unis et le monde. Ce sont des élections qui, par ailleurs, sont extrêmement indécises, dans la mesure où, quand on regarde sa popularité, Donald Trump est un président qui est peu populaire, mais qui n'est pas très impopulaire, mais surtout dont la spécificité est qu'il a un socle qui est d'une stabilité inoxydable. Il peut se passer n'importe quoi, et il se passe souvent n'importe quoi, sa popularité ne bouge pas du tout. On n'avait jamais vu ça pour aucun autre président américain. Et quand on regarde les intentions de vote, on voit que, pour l'instant, il est plutôt battu. Ça dépend un peu de qui sera le candidat démocrate, on y reviendra. Il est plutôt battu, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il avait déjà été battu dans le vote populaire et de manière très nette par Hillary Clinton, près de 3 millions de voix de moins.
En 2016.
Les experts ont calculé qu'il pourrait avoir 5 millions de voix de moins et être malgré tout élu. Et donc, encore une fois, compte tenu de la spécificité du système américain, il faudra regarder État par État.
Natacha.
Alors, premier point, cher Ali, quand vous dites, mais les Américains se retirent de la scène mondiale, etc. Mais jamais de la vie. Pas du tout. Ce n'est pas parce que Donald Trump...
Militairement, il n'y a pas eu de nouvelle guerre.
Non mais la guerre n'est pas que militaire. Nous sommes dans une phase de guerre commerciale violente, comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps, et les Américains sont dans une politique, poursuivent une politique d'impérialisme total. On le voit particulièrement vis-à-vis des entreprises européennes, et évidemment que la question de savoir qui dirige les États-Unis est majeure, même si justement sur la question de la guerre commerciale, Donald Trump ne fait que poursuivre ce qui avait déjà été mis en place par Barack Obama. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a des choses très intéressantes qui se passent du côté des démocrates dans cette élection. On voit une véritable réflexion sur le socialisme qui émerge aux États-Unis avec des propositions qui sont des propositions extrêmement novatrices et pour le coup qui décoiffent un petit peu, notamment de la part d'Elizabeth Warren. Alors évidemment, a surgi face à cela le candidat de Wall Street, parce que ce qui était intéressant, c'est que les démocrates jusqu'à présent n'avaient pas le candidat de l'establishment. C'est-à-dire ce qu'avait pu représenter Hillary Clinton face à Bernie Sanders. Là, ça y est, ils ont Bloomberg, qui incarne exactement ce que veut l'establishment. Mais à côté de ça, il y a une innovation idéologique, intellectuelle, dans la gauche américaine, qui est assez intéressante à suivre.
Gilles, je partage cette idée-là. Ce qui est très intéressant est ce qui va se passer du côté des démocrates. C'est intéressant pour les démocrates, c'est intéressant pour les États-Unis, mais c'est intéressant pour la réflexion de l'ensemble des gauches européennes. On va publier dans quelques semaines un essai de Célia Belin, qui est une chercheuse de la Brookings, sur la gauche américaine.
Spécialiste des États-Unis.
Spécialiste des États-Unis.
Et j'imagine que ON, c'est la Fondation Jean Jaurès.
Notamment,
c'est
mais
pas Marianne.
Pas seulement, c'est chez Fayard. Mais ça pourrait. C'est chez Fayard aussi.
On a des articles sur le socialisme aux États-Unis qui sont passionnants.
Non, ce qui est très intéressant dans ce qu'elle raconte, c'est quelle est la réflexion, quelles sont les différentes stratégies auxquelles réfléchissent les démocrates. Parce qu'il y a une première stratégie qui est celle qu'a évoquée Natacha. C'est la stratégie sociale, c'est-à-dire l'objectif, c'est de reconquérir l'électorat populaire qui a basculé vers Donald Trump. C'est les électeurs, les États de la ceinture industrielle. Et donc la réponse, c'est la radicalité dans le programme économique et social, la lutte contre les inégalités, c'est Elizabeth Warren. Mais il y a une deuxième stratégie qui n'est pas une stratégie sociale, qui est une stratégie sociétale.
Oui.
C'est il faut mobiliser davantage les minorités, ce qu'on appelle les minorités aux États-Unis, les Afro-Américains, les Hispaniques, les femmes que j'intègre là-dedans, enfin que les Américains intègrent là-dedans. Et donc il faut valoriser des identités qui ont été des identités bafouées. Et puis il y a une troisième stratégie dont on parle peu, mais qui est très intéressante, qui est non pas une stratégie sociale, non pas une stratégie sociétale, mais une stratégie politique, qui dit Donald Trump a fracturé les États-Unis, il faut réconcilier les Américains. Mais non pas avec une politique modérée, mais une politique radicale de refonte des institutions. C'est Pete Buttigieg qui arrive. Et puis, ça c'est trois stratégies qui sont très, très colorées, très différentes. Et puis il y a, on peut dire, une quatrième stratégie, et tout ça c'est bien gentil. Le seul sujet c'est de gagner l'élection, et il faut avoir le meilleur candidat pour cela. Hillary Clinton n'était pas une bonne candidate, c'est pour ça qu'elle a perdu, il faut pas chercher plus loin, et ça c'est la candidature de Joe Biden. Et donc on va voir, entre ces quatre stratégies, où ça va tomber, et c'est très important pour l'avenir de ces élections.
Il nous reste 10 mois pour regarder ça de près, Natacha.
Oui, et en sachant que justement, il y a eu à la suite de l'élection de Donald Trump, une réflexion de la part de la gauche américaine sur les questions de savoir pour ce qu'ils avaient raté. Autant il y en a qui se sont contentés en effet de considérer qu'Hillary Clinton était une mauvaise candidate, autant d'autres sont allés un peu plus loin et justement ont compris que Donald Trump fracture aujourd'hui, mais qu'en fait, il avait pendant sa campagne, parler de la nation et qu'il avait servi un discours qui était un discours supposé d'une façon de ressouder une part de la nation contre d'autres, mais de ressouder la totalité. Et que l'erreur d'Hillary Clinton face à ça, c'était d'avoir parlé à des différentes minorités, justement, en allant chercher à chaque fois une clientèle pour adapter son discours. La question de savoir si on peut parler à la totalité d'une nation, justement, ça va être une question intéressante.
Voilà, faut-il se ressembler pour s'assembler ?
Exactement.